Torréfaction est un podcast Geekzone intégralement produit grâce à vos soutiens sur Patreon. Pour plus d'informations, rendez-vous sur patreon.com/geekzonefr. Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 140e épisode de Torréfaction. On se retrouve comme tous les vendredis matins à 8h pour une sélection de l'actu que je réalise avec mon ami Caféine. Bonjour Caféine.
Hello Monsieur Fasquille.
Ça va?
Bah écoute, on fait aller. J'ai décidé d'enregistrer Torréfaction malgré les... Déjà parce qu'on l'a pas fait la semaine dernière. On pensait se reposer, en fait c'était une semaine de merde. Et puis ça s'est amplifié. Donc malgré les drames de la vie, j'ai décidé d'être là et que parler de jeux vidéo et causer dans le poste, ça fait du bien, c'est thérapeutique.
Ouais.
Et voilà. Puis en plus, tu vois, dans les trucs légers et rigolos aujourd'hui, j'avais pas prévu de regarder la conf Microsoft et donc on n'avait pas prévu d'en parler. Mais grâce à mes voisins qui refont leur parquet, parce que les pauvres, ils sont pas contents non plus, hein, ils sont mangés un dégât des eaux, tout ça. Mais du coup, bah, ça tapait, ça ponçait. Et même avec mon micro et tes plugins magiques, il était pas possible de faire ça avant tard ce soir.
Ça allait être compliqué, ouais.
Donc je me suis régalé. Merci Microsoft pour cette heure de présentation dont nous allons pouvoir parler dès cette semaine. Alors je vous ai mis la vidéo dans le billet qui accompagne le podcast, donc n'hésitez pas, allez vous régaler vous aussi pendant une heure.
Allez perdre votre temps.
Alors je vais pas vous mentir, hein, c'était vraiment minable. La conf Microsoft qui donc regroupe les titres, une partie en tout cas, hein, des titres qu'ils veulent mettre en avant pour leur prochaine génération de consoles, mais aussi sur le PC et surtout pour leur Game Pass, parce que franchement, moi, ce que je retiens de cette présentation, c'était une sorte d'énorme publicité pour leur Game Pass, qui, je le rappelle, soit avec un abonnement, vous permet de jouer à tout un tas de titres. On est vraiment chez eux dans une optique de Netflix du jeu vidéo, contrairement à la concurrence. Donc c'est vraiment, ça peut être intéressant, hein, ça peut être très rentable, mais d'une manière générale, là, ce qu'ils ont montré, c'était assez décevant. Ils ont ouvert avec un petit titre que personne n'attend, Halo Infinite. Donc c'est Halo, c'est la licence Halo. Tu te dis, bon, là, les mecs, on va en prendre plein la gueule. C'était nul. Alors quand je dis c'était nul, attention, hein, excusez-moi les fanboys, rangez vos goodies, posez vos tout va bien. C'est que le trailer, je pense qu'en fait ils l'ont vraiment très mal fait. Alors en plus, on ne sait pas vraiment sur quelle version du jeu ça a été tourné, si tu veux, mais c'était mou. Les phases de les cinématiques avaient aucune pêche. Les shaders étaient vraiment pas beaux. Enfin, c'était, on était à des années-lumière de ce qu'on voit aujourd'hui, ce qu'on peut acheter dans les stores aujourd'hui, tu vois. Donc c'était assez décevant, surtout pour un titre qui est quand même ultra mis en avant chez eux. Ensuite, on a eu pas mal de trucs. Moi, ce que j'ai retenu, c'est qu'effectivement, Forza Motorsport, la version Xbox Series X, on nous promet du 4K, du 60 FPS, du ray tracing, et pour l'instant, ça semble tenir ses promesses. Là, en revanche, tu sens que l'équipe, les mecs, ils ont leur moteur 3D en main. C'était assez joli. Un des trucs qui a retenu mon attention aussi, c'est un titre de Rare qui s'appelle Everwild et dont on ne sait rien, en fait. Est-ce qu'en fait, ils ont montré une espèce de cinématique onirique avec un cel shading vraiment super joli, des animations magnifiques, mais on n'a rien vu du gameplay, hein, donc ça se trouve on joue une aile de papillon qui se détache et il faut fumer des gros trucs pour trouver le jeu bien. J'en sais rien pour l'instant, on n'a aucune idée. On a eu des trailers sans gameplay du style Warhammer 40K Darktide. Bon bah tu te dis très bien, bah super, mais c'est quoi le jeu, on verra bien. Remedy qui nous a sorti un espèce de un truc qui s'appelle Crossfire, donc t'as l'impression de voir un espèce de Crysis sauce Sam Fisher.
Okay.
C'était ultra générique. Mais tu sais, le truc, tu te dis, putain, les gars, on a l'impression que c'est une parodie de FPS, tu vois. Donc, pareil, c'est une boîte qui a fait bien mieux par le passé. Donc, j'ai l'impression que ça sent un peu le jeu de commande. On verra bien ce que ça donne. Mais encore une fois, ça vend pas non plus du rêve. Dans les choses qui ont été un petit peu plus, on va dire, intéressantes, on a eu une petite preview de Stalker 2. Donc, évidemment, les fans ont fait genre, ah, ça va être génial. Bon, on verra bien. Encore une fois, on n'a rien vu, hein, du gameplay, je veux dire. Et puis, le One More Thing, c'était un truc sur Fable. Alors, si vous vous rappelez Fable, okay. Voilà quoi. Donc, apparemment, ça serait un MMO dans l'univers de Fable. Mais c'est pareil, le One More Thing, il était rigolo parce que on te fait je veux pas vous spoiler la fabuleuse séquence qui finit cette extraordinaire heure de présentation. Mais en gros, oui, ok, c'est rigolo parce que t'as une fée qui te fait genre, oh là là, regardez, c'est un monde féerique. ça va être joli et tout, mais hop, elle se fait gober par un crapaud. Donc voilà, je trouvais que c'était dans l'air de temps de ma semaine, donc ça m'a fait sourire, merci. Mais sinon, sur le vraiment l'ensemble de la conférence, il n'y a pas grand-chose qui va vous donner envie de sortir des billets. En plus, quasiment tous les titres intéressants sont jouables sur PC. Il y a très peu de choses qui vont rester exclusives sur la console de Microsoft. Donc voilà, pour l'instant, on est un petit peu déçus. Alors évidemment, ils ont décidé d'annoncer d'autres choses pendant l'année. J'imagine que plus on va se rapprocher de la console, plus ils vont nous montrer de choses. Surtout que là, on est vraiment passé à une ère de, on vous fait des présentations clés en main, etc. Moi, ce que je retiens, c'est que par rapport à Sony, ne serait-ce que sur la forme, les mecs ont vraiment pas signé les bons prestataires pour avoir une présentation avec un rythme intéressant, enfin où il se passe des choses un petit peu.
C'est du travail, hein.
Voilà, tu vois, c'est un métier et tu sens que les mecs qui ont fait le truc, bah, je sais pas, ils sont pas au niveau. En tout cas, ils sont pas au niveau de chez Sony. Et puis, bah, l'offre Sony globalement est quand même beaucoup plus sexy pour l'instant. Donc, écoute, Microsoft sur ce coup-là, bien joué. Et puis en plus, ça m'a fait rire parce que ils ont fermé Mixer, je crois que c'était hier, donc ouais. Là la vidéo a été matée par des millions de gens sur Twitch, YouTube, etc. Et zéro sur Mixer, rest in peace. Donc franchement, bravo les gars, des décisions au top chez Microsoft en ce moment, donc on attend de voir ce que ça va donner, mais en tout cas pour l'instant gardez vos sous, il sera temps de décider au moment de la sortie de la machine.
Et on va parler de Death Stranding sur PC.
Ah oui, parce qu'on en a déjà parlé du jeu de Kojima. Donc je ne vous refais pas le topo du scénario, vous en pensez ce que vous voulez, vous savez, vous avez déjà mon avis, hein, si vous faites une recherche dans le magnifique moteur de recherche de Geekzone.fr, vous retrouverez le Torréfaction où je parle déjà de la version PS4. Là, je voulais en parler sur la version PC, parce que contrairement à ce que je viens de voir chez Microsoft, techniquement, Death Stranding sur PC, c'est une tuerie, donc on aime ou n'aime pas le gameplay, en tout cas, techniquement, c'est vraiment très très beau, et ils peuvent dire merci à un certain Nvidia, parce qu'en fait, ils exploitent extrêmement bien une techno dont j'ai déjà parlé qui s'appelle le DLSS 2.0 et qui permet en fait de jouer en 4K avec une finesse sur les textures et un nombre d'images par seconde assez hallucinant. Si vous êtes même en 2K et si vous jouez même en 1080, vous pouvez mettre tout à fond, ça ne rame jamais et on est sur une qualité d'image qui met à l'amende la PS4 Pro et c'est vraiment une belle petite perf. Et puis j'ai vraiment l'impression que finalement le jeu avait été prévu pour être joué comme ça, parce qu'on perd énormément de cette impression d'inertie pénible qu'on avait sur la version PS4. Donc du coup on dirige mieux le personnage, alors on sait un petit peu, le gameplay devient un petit peu moins pato et un petit peu moins pénible. Après pour le reste, que ça soit du côté du scénario ou du cœur du gameplay, je vais pas vous réexpliquer ce que c'est, hein, mais il faut aimer les balades en Bretagne pour apprécier ce jeu à sa juste valeur.
Les balades chargées, ouais.
Ouais, les balades chargées, mais ça fonctionne, donc en tout cas si vous avez pas du tout fait le jeu, vous étiez intrigué et que vous vouliez essayer, vous pouvez y aller. En plus, à noter que si vous avez des écrans qui sont habituellement handicapés par les jeux classiques, je veux parler des écrans extra larges, tu vois, avec des résolutions dans la largeur beaucoup trop grande pour pouvoir jouer dans le confort, et puis surtout qui font ramer quasiment toutes les cartes graphiques. Là, avec ce système-là, ça marche très bien et c'est prévu en fait dans le jeu, ça fonctionne vraiment parfaitement. Donc vous avez des paysages magnifiques, donc si vous voulez essayer ça, faites-vous plaisir.
Et on va parler de Ghost of Tsushima,
qui était la grosse sortie hyper attendue, et attention, ceci est un test pipeau. Il faudrait qu'on invente un jingle, Fask. Tu sais, pour les tests.
Le test de la boîte.
Tu sais, le test, je n'y ai pas joué. Non, celui-là, je n'y ai pas touché. Je voulais en parler parce que c'est la grosse exclue PS4 et certainement la dernière de cette génération. C'est un titre de Sucker Punch. Ce qui est assez hallucinant, en fait, c'est un jeu qu'on attend, sur lequel ils ont bossé, a priori, depuis 6 ans. Donc, c'est juste énorme. Si vous êtes un fan du Japon époque samouraï, évidemment, ça ne se rate pas. Vous allez incarner Jin Sakai, qui est un samouraï qui est tiraillé entre la voix du Bushido classique et des techniques furtives de ninja qui lui ont été enseignées par la personne qui l'a sauvé, puisqu'il est laissé pour mort sur un champ de bataille au début du jeu. Et il va devoir défendre son île et ses amis et sa famille, tout ça, tout ça. d'une invasion mongole, et ça se passe pas très bien, évidemment. Donc le propos est intéressant, mais surtout vous irez voir le test de notre ami Goto, je crois, sur Gamekult, qui a lâché un 6/10, hein, no spoil, mais je suis obligé de vous prévenir. Attention, 6/10 sur Gamekult, ce n'est pas une mauvaise note.
Non, ce que j'allais dire. Ouais.
Je suis obligé de le préciser. Mais il y a énormément de choses qui sont problématiques dans le titre, dans le sens où on est sur un jeu qui, techniquement, offre des moments de grâce où c'est juste magnifique. Il y a des idées hyper intéressantes, hyper poétiques. Il n'y a pas de GPS dans le jeu, tu n'as pas de carte. Mmh. C'est le vent qui va te donner l'indication de ton prochain objectif, par exemple. Et c'est ultra bien fait. C'est super joli, l'interface est super épurée. Tu sens que les mecs ont vraiment voulu faire un peu honneur à l'imagerie japonaise, du cinéma japonais, etc. Et c'est très, très bien fait par moments. Et puis, il y a des moments où le jeu est juste moche. Enfin, il y a des moments où c'est vraiment pas joli. Et là, évidemment, vous dites, mais t'y as pas joué, tu parles. Oui, mais les gars, je vais pas vous expliquer Internet. Donc voilà. Donc j'ai été faire mon travail quand même un minimum.
T'as regardé les streams sur Mixer.
Voilà, c'est sur Mixer, évidemment, ce service d'avenir de Microsoft. Et c'est vraiment. C'était un petit peu la déception parce qu'on attendait un petit peu l'apothéose. Tu vois, la dernière Sucker Punch, c'est pas des manchots. Tu te dis, c'est un des derniers jeux de la PS4 en grosse prod. Et finalement, c'était peut-être pas une si grosse prod que ça. Finalement, les budgets n'étaient pas au niveau qu'on avait imaginé. En tout cas, c'est ce qui se dit, et le résultat est un petit peu décevant. D'ailleurs, vous le verrez, hein, sur certains screenshots du test de Gamekult ou de n'importe quel test sur le net, d'ailleurs. Et puis, ils sont tombés quand même dans tous les pièges de l'open world occidental. Donc, ils ont des petites problématiques à la Ubisoft, tu vois. T'as 50 trucs à faire de suite, c'était poétique et rigolo la première fois, puis après, t'en as rien à foutre, tu vois. Il y a des renards qui veulent te faire découvrir des trucs. Bon, c'est rigolo de le suivre. Le premier, puis le 30e, tu te dégages, casse-toi, sac à puce. Donc, t'es vraiment pas dans le mood tout le temps. Donc, c'est un petit peu compliqué. En revanche, il y a une bande-son incroyable. L'aventure et le scénario restent quand même, a priori, suffisamment intéressants pour avoir envie de le terminer. Moi, j'ai des potes qui ont vraiment, vraiment adoré. Donc, voilà, en fonction de votre backlog, votre budget, combien vous voulez dépenser pour ce titre, vous n'êtes pas du tout obligé de le faire maintenant. En plus de toi, moi, je serais quand même pas super étonné qu'il y ait une version remaster, blablabla, machin, sur PS5 dans pas trop longtemps, tu vois.
Gouti.
Voilà, donc, si vous n'avez pas le temps, vous précipitez pas, à mon avis, il y a moyen d'en profiter encore pendant quelques années, et puis vous savez, des backlogs comme ça ne vieillit pas si vite. Donc voilà, mais en tout cas, c'était la grosse sortie, et on était obligé d'en parler, moi, je vais essayer de le faire dès que j'aurai un petit peu de temps et un peu d'envie.
Et on va terminer cette section gaming avec Carrion ou Carrion, je sais pas comment on dit.
Non, c'est Carrion. Moi, je vais le dire à la frontière. Ayrton Senna, tu vois, on va le dire. Ça doit être Carrion, ça doit être Carrion chez nous, tu vois. C'est un petit titre indépendant de chez Phobia Game Studio qui est édité par Devolver, qui sort sur Switch, PC et Xbox One. Alors, pour le coup, lui, j'y ai joué. Il est sorti, je l'ai eu en milieu de semaine, et vous allez dire, oh là là, t'as déjà eu le temps de finir le jeu, t'es trop pro-gamer, caf. Oui, enfin, en même temps, il se finit entre 3 et 5 heures. Donc c'est beaucoup plus pratique pour vous proposer des tests complets. C'est un Metroidvania très rigolo, je pense que ça te plaira d'ailleurs. C'est un Metroidvania où tu joues un blob, tu joues le méchant monstre en fait.
D'accord.
Donc ça change énormément des classiques. Là encore, on en attendait beaucoup à cause des trailers qu'on avait vus, il avait déjà été montré, etc. Là encore, nos petits amis lui ont clôlé un 6/10 chez Gamekult, et vous allez voir, les notes sont assez contrastées en fonction des préférences des testeurs. Il y a les mecs qui ont adoré The Thing, ou tous les films d'horreur des années 80 se sont régalés, et donc ont un petit peu parfois surnoté le truc, j'ai envie de te dire. Le concept est hyper malin. En gros, tu joues un blob qui s'échappe d'un laboratoire et tu dois te barrer, en fait, si je fais simple. Et pour pouvoir progresser, récupérer des fonctionnalités supplémentaires avec ton petit corps plein de tentacules, il faut manger des humains.
D'accord.
Alors c'est déjà c'est un petit power trip assez rigolo, tu vois. Donc c'est un visuel et une ambiance que John Carpenter n'aurait pas désavoué. Au début du jeu, tu te dis, ah là là, je suis super fort, je vais tous les bouffer. Bon, la première fois que tu crèves alors que tu te fais tirer par un pauvre scientifique avec un pauvre pistolet, tu te dis, bon, je vais quand même me calmer et réfléchir un petit peu. Donc vous pouvez évidemment bourriner, mais pas tout le temps. Donc attention, c'est pas non plus open bar. La 2D du jeu jeu est extrêmement bien fichu. Au début, on a une impression un petit peu bizarre quand on commence à jouer. Dès que ça bouge, on trouve ça magnifique. Alors, je dis ça parce que si vous regardez uniquement des screenshots, ça va pas rendre justice au jeu. Faut vraiment mater des vidéos. Et le maniement de la bestiole est extrêmement instinctif. Ça marche très très bien. Donc on se balade. C'est dégueulasse, hein, la bestiole. En plus, plus tu manges des humains, plus tu grossis. Donc plus tu récupères des pouvoirs, plus tu peux bouger des portes. À un moment, t'as un pouvoir supplémentaire qui te permet en fait de te catapulter contre des grosses structures pour les péter, par exemple. Mmh. Mais tu peux plus passer dans certains endroits. Donc là, il va falloir que t'ailles faire une petite cure d'amaigrissement dans un coin pour pouvoir repasser dans d'autres endroits. Donc on est dans du Metroidvania, donc tu as des allers-retours de temps en temps. Et il faut réfléchir en disant, ah mais ça, attends, si je perds un peu de poids, là, je dois pouvoir passer. Tu vois, c'est l'été, il faut prendre sa taille bikini et hop, tu vas pouvoir aller dans des endroits que tu ne pouvais pas, auxquels tu ne pouvais pas accéder. Et puis bah il va falloir se méfier parce que le jeu a beau être court, très très vite t'as des ennemis qui vont découvrir la puissance du lance-flamme par exemple. Donc toi, avant d'aller engager des mecs qui sont armés de ce genre de trucs, il vaut mieux aller repérer où sont les points d'eau pour pas crever comme pas comme un barbecue. Donc franchement, il y a des bonnes idées de gameplay, ça se fait assez vite, ça coûte 20 balles. Voilà, en fonction encore une fois de votre backlog et de votre budget, c'est pas obligatoire de foncer dessus là tout de suite, mais gardez-le dans votre liste si vous craquez pas tout de suite. En tout cas, moi je me suis vraiment marré, je trouve que l'ambiance est très réussie, et le gameplay oblige à réfléchir assez régulièrement, parce que tu peux attraper les portes, les balancer sur les humains, comme ça tu les manges après tranquillement, tu vois. c'est vraiment assez rare de on en a pas eu énormément des jeux, tu vois, où tu joues le bad guy. Il y a eu des aliens où tu faisais l'alien, justement.
Le Dungeon Keeper.
Il y a eu les Dungeon Keeper dans un autre style. Mais bon, voilà, c'est assez rigolo de pouvoir se faire plaisir en étant une bestiole immonde qui ressemble à rien. Hein. C'est une espèce de grosse bouche avec des tentacules autour. Donc, voilà, vous allez voir les vidéos. J'ai tout linké dans le billet qui accompagne le podcast et vous vous ferez votre avis comme des grands.
Et on passe du côté des apps et je voulais vous parler très vite de MPC Beats. Tu te souviens de la MPC caille?
Ah là là, j'ai rêvé de ça, c'était très cher à l'époque.
C'était très cher, machine légendaire, donc qui avait été lancée en 88 par Akai, MPC, ça veut dire Music Production Center, et c'est donc une station audio, en gros, qui combine sampleurs et séquenceurs. Alors, il y a eu plein de modèles différents, hein. Il y a eu je sais pas combien de déclinaisons, et ça a été conçu à la base par un monsieur qui s'appelle Roger Lynn, et Roger Lynn, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un monsieur qui est super important dans l'histoire des instruments électroniques, puisque c'est légende, lui qui était l'auteur de la célèbre boîte à rythme LM1. Et c'est une boîte à rythme qu'on a beaucoup entendu dans les années 80 avec ce son bien typé, et une boîte à rythme d'ailleurs que Prince adorait particulièrement et qu'il a beaucoup utilisé à cette période. Donc c'est une machine qui va avoir globalement, alors là je reparle de la MPC, un impact considérable donc dans le développement de la musique électronique et puis aussi sur la scène hip-hop. Et donc Akai propose désormais MPC Beats, c'est une application, donc c'est une version virtuelle de la MPC. Enfin, ça fonctionne un peu comme la MPC, c'est pas tout à fait une transposition fidèle. Il y a deux pistes audio, 8 pistes MIDI, 16 pattes, un éditeur d'échantillons. Il y a également une compatibilité avec les plugins VST et AU, et c'est aussi compatible avec tous les contrôleurs MIDI du marché, dont la MPC. Donc ça veut dire que tu peux faire de l'inception et brancher ta MPC pour piloter MPC Beats. C'est gratuit. Alors évidemment, Akai essaye quand même de gagner un peu des sous dessus. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils vendent des extensions en fait, avec des packs de sons et de loops qui ont été pour la plupart créés par des gens du milieu, des artistes connus, et donc ils vendent ça 40 balles pièce. Il y en a un paquet qui sont sortis déjà, donc voilà, si vous voulez étoffer ça avec des sons, il vous en coûtera 40 € par extension, et sinon pour le reste le soft est complètement gratuit, il est dispo pour PC et pour Mac. J'ai fait un petit billet dessus avec une vidéo qui présente un peu le produit pendant 15 minutes sur Geekzone, et je vous linkerai donc dans le billet qui accompagne ce podcast. On va passer à Ulysse
qui ça va aller très vite, hein. Ils ont sorti leur version 20, eux ils aiment bien, tu vois, les points, tout ça c'est nul, donc ils font des numéros entiers sans arrêt. Ulysse, je rappelle, c'est un éditeur de texte orienté Markdown qui permet de bosser sur iOS, macOS et iPadOS, qui est qui est pour moi le meilleur logiciel pour écrire en Markdown et gérer tout type de prose. C'est-à-dire que vous pouvez faire un bouquin de 700 pages avec, comme vous pouvez faire un article pour Geekzone de quelques signes. Ça permet de faire des exports en fait de toutes sortes. Vous pouvez exporter en DocX, enfin en format Word. Vous pouvez directement publier sur WordPress. Vous pouvez exporté en différents types de fichiers texte, en Markdown évidemment. Ça peut lire, vous n'êtes pas obligé d'utiliser la base de données interne du soft, vous pouvez aussi utiliser directement un folder avec tous vos fichiers Markdown Inside, ça sait très bien gérer ce genre de choses, avec quelques limitations, mais rien de dramatique. Ils ont vraiment très très bien travaillé sur les dernières versions à ce niveau-là, et cette version 20, elle apporte surtout un dashboard entièrement repensé, qui permet en fait d'accéder à toutes sortes d'informations sur votre texte. Alors, il y a énormément de choses qui sont disponibles, mais qui sont des classiques, hein, le nombre de signes de votre texte, combien de mots, combien de phrases, le temps de lecture moyen, etc., etc. Mais il y a des choses qui sont un peu plus rares, et ils ont surtout rajouté un correcteur grammatical qui est, enfin, et de style, qui est disponible en 20 langues maintenant, qui est en fait une chose qui existait sur le net que je ne connaissais pas, moi, en fait, très curieusement, parce que c'est un service qui était complètement pas, je connaissais Grammarly, mais je connaissais pas le concurrent, en fait, sur lequel il s'appuie, qui s'appelle LangageTool Plus. Et LangageTool Plus, en fait, ils l'ont intégré directement dans le logiciel, hein, donc vous n'avez pas besoin de payer un abonnement ou quoi que ce soit, c'est directement à l'intérieur du soft, et ça va vous dire, bon, bah là, votre style, ça s'améliore, là, vous avez des répétitions, là, la ponctuation, je suis pas sûr, etc., etc. Alors, c'est pas aussi puissant qu'un Antidote, par exemple, mais quand vous avez que ça sous la main, bah franchement,
c'est déjà pas mal, oui.
Bah, voilà, c'est bien mieux que rien, c'est surtout bien mieux que ce qui est intégré même dans les OS de base. Donc franchement, c'est une bonne nouvelle, et puis ils ont fait en sorte de regrouper tous les différents panneaux qu'ils avaient avant, qui étaient un peu explosés un peu dans l'interface, pour avoir quelque chose de beaucoup plus facile d'accès, et à noter qu'ils ont fait en sorte d'adapter justement cette interface à chaque taille d'écran, c'est-à-dire que vous n'avez pas exactement le même sur iPadOS, sur macOS et sur iOS, dans le sens où ça n'avait pas de sens, tu vois, sur un écran de Mac où tu peux t'étaler sur la largeur. Bon, bah ils ont fait au mieux pour évidemment faire un truc où tu as tout, tu peux visualiser tout d'un coup d'œil, mais sur un téléphone, évidemment, sur un iPhone, c'était pas possible. Donc ils ont bougé les menus, ils ont repensé le truc, mais pour que ça reste facile d'accès et utile. Donc je vous ai fait un petit billet là-dessus sur Geekzone. Je vous laisse aller regarder tout ça.
On termine cette section apps avec Obsidian.
Un truc trop chelou, mais qui a l'air de beaucoup plaire si j'en crois les retours sur Twitter et les quelques retours qu'on a eu sur le forum. C'est un éditeur de texte Markdown encore, mais qui est orienté gestion de la connaissance. Alors, le knowledge management, c'est un truc qui est très à la mode en ce moment. Ça fait parler beaucoup de gens et d'experts en management, en productivité, etc., etc. Avec des outils, bah justement, Notion a fait partie des premiers outils qui étaient utilisés dans ce genre de choses. Là, on arrive maintenant dans des nouveaux trucs avec des liens logiques entre les idées, des notes qui peuvent être linkées au lieu de faire des notes dans un répertoire et puis qui vivent uniquement dans ce répertoire-là. Maintenant, la mode est aux notes qui sont linkées dans les deux sens, c'est-à-dire que tu vas pouvoir linker des idées entre elles et naviguer entre ces différentes idées, entre ces différentes notes, un peu comme une sorte de Wikipédia, si tu veux, mais ton Wikipédia perso. Et puis visualiser ça avec différents outils. Alors, il y en a qui aiment bien le mind mapping. Là, on est plutôt sur un système de lignes, enfin, tu sais, avec les cercles et ils vont relier les idées entre elles, et comme ça tu peux voir quel truc parle de quel sujet, et puis aller directement cliquer dessus pour ouvrir le bon texte. Alors c'est un petit peu compliqué à expliquer en podcast sans support et visuel, je ne vous l'avoue. Donc pareil, il y a une news que j'ai faite sur geekzone.fr qui parle de tout ça. C'est un logiciel qui est gratos, ils ont un business model qui est vraiment pas du tout toxique, qui est prévu autour de ça. Et en plus, bah, c'est un logiciel qui a vu le jour grâce au confinement. Donc, comme quoi, parfois, il y a des choses positives qui en sortent. parfois, voilà. Parce que là, c'est une idée, en fait, que l'équipe derrière ce soft avait derrière la tête depuis un moment, mais ils n'ont jamais eu le temps de le faire. Donc là, ils se sont dit, c'est l'occasion. Et puis, vous verrez, en fait, j'avais parlé d'un autre soft qui s'appelle Zeitler, il n'y a pas très longtemps, ou Zeitler, qui est un peu dans le même esprit, et vous verrez que dans les mois à venir, je ne serais pas étonné que ce soit un style de présentation qui se démocratise de plus en plus, même si de vous à moi, très peu de gens en ont eu vraiment une utilité forte. En revanche, pour les gens qui cherchent des outils dans ce genre-là, il n'y avait rien, ou alors c'était cher, les interfaces n'étaient pas terribles, c'était uniquement en ligne, et du coup, ce n'était pas pratique, surtout si tu veux mettre des informations un petit peu peu confidentiel là-dedans. Là, tu peux tout gérer en local, ça marche très très bien, et encore une fois, c'est gratuit.
Et on passe du côté de la culture, et cette fois-ci, c'est toi qui veux nous parler d'une série télé.
Incroyable, ouais, il se passe des choses. Hein. Alors attention, moi j'en parle pas comme toi, parce que je t'avais déjà dit, hein, je suis nul, mais je ne sais pas parler des pas réalisateurs, je sais pas qui est qui, c'est horrible. Mais là, ça m'avait interpellé parce que donc la série en question s'appelle Brave New World, et c'est une adaptation du Meilleur des Mondes de Aldous Huxley, et qui a été réadapté parce que le roman il date des années 30, donc il fallait un petit peu moderniser tout ça, mais parler d'une société idéale, de la lutte des classes, mais qui ne dit pas son nom par exemple, on va dire qu'on est quand même pas mal dans l'air du temps. Et j'ai été extrêmement surpris du niveau de la réalisation. Alors évidemment c'est une série, en plus vous allez être obligé d'appeler votre copain Bob VHS, hein, comme d'habitude, car c'est disponible uniquement en streaming sur Peacock, qui est un service de streaming de NBC Universal qui n'est pas disponible chez nous pour le moment.
C'est gratuit et c'est bien dommage qu'il soit pas disponible chez nous.
Bah ouais, mais du coup, je sais pas, peut-être qu'un jour ils vont faire un deal avec quelqu'un chez nous au CSA.
Ça sera ça, dans un abonnement Canal Plus à 60 balles.
C'est ça. Mais oui, mais je comprends pas, c'était gratuit chez les autres là-bas. Oui, mais bon, c'est compliqué. Non, du coup, j'étais extrêmement étonné par la réalisation qui, je trouve le rythme très bien amené. Je trouve les thématiques abordées extrêmement pertinentes en ce moment. Alors, je vous rappelle vite fait que dans le meilleur des mondes, vous êtes dans New London, tous les humains qui existent dans cette ville parfaite sont en fait des embryons qui ont été déjà prédéterminés au moment de la conception, et donc vous avez votre place dans la société, quoique vous n'avez pas le choix en fait, hein, à la naissance c'est prédéterminé, et pour que tout le monde soit content tout le temps, vous mangez des dragibus, en fait tout le monde se drogue en permanence, ils ont des espèces de distributeurs de pèse avec des petites boules avec des couleurs différentes en fonction du niveau de stress que tu ne veux pas ressentir, donc t'es vraiment dans un truc, voilà, faut aimer le beige, tu vois, personne doit faire de vagues, tout doit être absolument lisse, et évidemment il se passe des événements qui vont foutre une mer de noir dans ce tableau idyllique, puisque évidemment il n'est pas si idyllique que ça, et moi je suis tombé vraiment sous le charme de Jessica Brown Findlay, que je ne connaissais pas du tout, car tous les autres trucs qu'elle a fait je les avais pas regardés, qui est une actrice anglaise d'une trentaine d'années et qui joue un des personnages principaux de la série et qui est vraiment vraiment convaincante dans son rôle. Quand vous allez avoir vu la série, vous allez me juger, vous allez faire caf, c'est parce qu'elle est nue régulièrement. Alors non, ça n'a rien à voir. Mais oui, il faut savoir, et je préfère préciser, les gens qui veulent regarder ça avec leurs enfants, par exemple, non, faites pas ça. Parce qu'il y a un peu de violence, certes, mais il y a surtout beaucoup de cul. Voilà. Enfin, je veux dire, on est quand même dans une société qui passe son temps, finalement, n'a pas de problématique. Donc, pour que les gens ne pense pas, ne soit pas apte à avoir des pensées privées, en fait, on empêche la vie privée, donc déjà, le couple est interdit, la monogamie est interdite, et donc, la partouze est reine. Alors là, d'un coup, je sens que vous êtes en train de regarder Bob VHS.
Tout le monde est en train d'appeler Bob.
Quel est son numéro de téléphone? Déjà, il faut que je vois ça. Non, mais je vous rassure, il y a, si c'est pour ça, il y a des sites spécialisés.
Il y a Bob Hub.
Voilà, ça n'a rien à voir. Appeler Bob Hub, ça sera différent. Donc voilà, il y a vraiment un propos derrière qui est extrêmement intéressant. Il y a une flopée d'acteurs qui est vraiment, 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 vraiment surprenant. Et puis, il y a que 9 épisodes, si je ne dis pas de bêtises. Donc ça se regarde relativement vite je pense que nous aurons une suite incessamment sous peu, car nous avons une fin ouverte mais qui est une vraie fin, hein, ne paniquez pas, il n'y a pas un gros cliffhanger, vous n'êtes pas dégoûté, tout se passe bien, mais je sais déjà quelles questions vous allez taper dans Google à la fin du dernier épisode et ça me fait rire rien que d'y penser, voilà.
Et moi je voulais vous parler de musique, normalement j'aurais dû vous en parler la semaine dernière, mais comme on n'a pas fait l'épisode, ça n'a pas été possible puisque l'album est sorti en fait vendredi dernier, l'album Maybe We Could de Klo. Alors Klo, ça s'écrit K2LO, et c'est un duo musical australien originaire de Melbourne, composé donc de la chanteuse Chloé Cole et du producteur Simon Lam. Ils sont actifs depuis 2014, ils ont fait un premier EP qui s'appelait Cusp, puis un deuxième Wellworn en 2016, et puis enfin un premier album Backwater en 2017. Ils produisent une sorte de pop électronique avec parfois des petites touches de R&B, c'est tout doux, on est bien dedans comme dans un bon plaid bien chaud. Et du coup en ce moment c'est parfait pour se mettre ça dans les oreilles, donc leur nouvel album, donc comme je le disais, est sorti vendredi dernier et vous pourrez donc aller l'acheter sur leur Bandcamp, et je vous propose qu'on en écoute un extrait, le morceau Just Checking In. Just checking in, donc c'était Close sur l'album Maybe We Could, et on passe du côté de la tech avec des news encore de Ryzen.
Ouais, oui, parce que AMD, ils sont chiants avec leur numéro de série, donc je voulais juste faire un petit rappel rapide. Vous allez voir popper dans certaines bécanes des Ryzen 4000. Ne soyez pas salés si vous avez la version 3000. Tout va bien, en fait. Ce sont des processeurs qui vont sortir au troisième trimestre 2020, qui sont toujours basés sur l'architecture Zen 2, en fait. La seule différence, c'est qu'ils ont des puces graphiques Radeon intégrées qui sont pas extraordinaire. En plus, le but du jeu, ça va être de vendre ça dans des portables ou dans des desktops pour le boulot, etc. Tu sais, pour les entreprises, ceux qui n'ont pas besoin de jouer à des gros jeux vidéo. Mmh. Donc voilà, ne vous prenez pas la tête. Et d'ailleurs, dans un premier temps, si j'ai bien compris, ça ne sera même pas vendu au détail. C'est vraiment pour les intégrateurs. Mais comme vous allez voir cette référence passer un petit peu partout dans les semaines qui viennent, je voulais préciser que ce Ryzen 4000 n'avait pas tellement d'intérêt pour vous. Tout va bien, vous pouvez continuer de bricoler votre petite configuration à base de 3000, tout va bien.
Et on reste dans les trucs qui ne servent à rien avec la rencontre entre Logitech et Herman Miller.
Alors, qui ne servent à rien, oui et non. C'est-à-dire que là, je suis obligé d'en parler car on avait été extrêmement hypé l'année dernière, il y a quelques mois, j'ai plus la date exacte en tête, par une annonce de partenariat entre Logitech et Herman Miller qui voulait faire enfin une chaise de gamer ultime. Alors, Herman Miller, je rappelle que c'est une marque de mobilier de bureau extrêmement haut de gamme. C'est les chaises que vous verrez dans toutes les startups, un petit peu, d'ailleurs, dans toutes les startups. Même celles qui n'ont pas de pognon, ils achètent ça.
Et que vous verrez après sur toutes les pages eBay des startups.
Voilà, donc moi j'ai racheté la mienne après une faillite de startup à 300€. Le modèle de base coûte 1300-1400. Et donc, le modèle qui est hyper connu, c'est une chaise qu'on appelle, un fauteuil de bureau qu'on appelle Aeron, c'est ce que j'ai. L'Aeron, en fait, c'est un truc qui est tellement mythique. Enfin, elle est au MoMA, tu vois, au Musée d'Art Moderne des Américains. Bon, c'est un peu la classe.
Enfin, oui, quand même.
Donc, ça pose un peu le débat. Il y a plein de trucs qui sont des innovations technologiques dans cette chaise, et donc on s'est dit, putain, les mecs, ils vont faire un truc pour les gamers, ça va être génial. Non. Alors en fait, c'est juste un rebranding d'un autre modèle qui s'appelle la M-Body, qui vaut 1300€ à la base, je crois environ, et qui coûte toujours 1300€ en version bleue, rebrandé Logitech. Donc ça fait un peu cher le logo pour faire style chaise de gamer. Hein. Alors je suis très 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 déçu. Moi, j'espérais vraiment que les mecs utilisent leur savoir-faire pour faire un modèle spécifique dans une gamme de prix un peu plus abordable, si tu veux. Mmh. C'est pas du tout le cas. Et en fait, ils ont fait une espèce de package, je sais pas qui va acheter ça à part les gens qui ont beaucoup beaucoup trop de fric, puisque avec cette chaise à 1300€, on a aussi un moniteur, un bras de moniteur en fait qui est fait par All-In, mais qui coûte genre 300€, je crois. Donc on trouve des très bons trucs sur Amazon pour 60$, hein, tu vois, enfin 60€, pardon. Donc vraiment, je vois pas l'intérêt. Et un standing desk, enfin un bureau assis debout motorisé, tu vois, tu peux changer quand tu veux te lever, etc. Le truc à la mode en ce moment qui s'appelle le Moita Desk. Pareil, ça va être environ 1200-1300€ en fonction du cours et des taxes. Je sais pas exactement comment ils vont convertir ça. Mais ça fait un peu cher le bureau aussi. Donc, je vous ai linké la news qui parle de tout ça chez nos amis de Review Geek, qui sont aussi salés que moi, je crois, hein, qui s'attendaient à quelque chose d'un petit peu plus intéressant. Mais du coup, si c'était pour faire juste du rebranding, bah, c'est quand même bien triste. J'espérais voir quelque chose d'autre. On verra si à terme ils ont d'autres produits dans leur besace, mais pour l'instant, écoutez, continuez d'acheter des trucs un peu moins chers et peut-être plus adaptés, sauf des chaises de gamer, hein, dont je vous rappelle que c'est quand même pas terrible les trois quarts du temps.
Et puis on va terminer cette section tech et ce podcast avec Gorilla Glass Victus. C'est ouais. Vrai, c'est les fenêtres résistantes pour les téléphones, c'est ça?
C'est ça, exactement. Le Gorilla Glass, c'est le truc qui a permis à Apple de nous sortir les premiers iPhones qui explosent pas au moindre contact avec une table basse. Mmh. Et puis qui résistent au scratch quand vous le mettez dans votre poche avec des clés, des pièces de monnaie. En tout cas, quand on fait les démos sur scène, hein, dans la vraie vie, vous savez tous qu'il y aura toujours un truc qui va réussir à faire un scratch dessus alors que c'est soi-disant impossible. Et Gorilla Glass, en fait, c'est un truc que tu retrouves dans tous les hauts de gamme, quasiment partout maintenant, que ça soit chez Apple ou chez Android. Hein. Mais là, en fait, ils ont annoncé un truc qui a l'air assez intéressant, puisqu'avec une vraie avancée, pour l'instant, on était vraiment sur des avancées qui n'étaient pas fabuleuses, voire même des pas en arrière, parce que les mecs cherchent un peu le bon rapport qualité-prix, puis c'est des technologies très compliquées à maîtriser. Mmh. Et donc, en fait, le Gorilla Glass Victus, ça correspond donc au Gorilla Glass 7. Ils ont décidé d'avoir du vrai marketing. Ils font ce qu'ils veulent. Hein, ça change rien. La grosse nouveauté, c'est qu'il serait réellement beaucoup, beaucoup, beaucoup plus résistant à tout ce qui est scratch. Ça, il faudra voir ce que ça donne avec des tests. Hein. Pour l'instant, on est juste au moment où les communiqués de presse sortent, si tu veux. Mmh. On attend les premiers produits équipés de ce truc-là. Mais là où les mecs prennent un vrai risque en annonçant ça, c'est qu'ils disent que maintenant, le verre résiste à des chutes de 2 mètres. Avant, c'était à peu près 1,50 m. C'est-à-dire que tu pouvais dropper le truc que tu avais en main en train de le regarder, si tu veux, au niveau de ta taille, et tu avais une chance que ton téléphone survive. Mais dès que tu étais un truc qui tombait d'un peu plus haut, c'était mort, quoi. Donc, globalement, il n'y avait aucune chance que ça résiste. Et là, on est sur quelque chose qui a l'air de tenir jusqu'à 2 mètres. Donc, alors après... Ce que ne dit pas l'histoire, c'est quelle est la surface à la réception.
Oui, c'est ça.
Tu vois. Donc, si c'est du gros bitume avec des graviers, je miserais quand même pas trop sur votre téléphone. Hein. Chacun fait ce qu'il veut. Vous mettez pas de cover si vous voulez. Vous vivez votre vie. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que la recherche continue à mort sur ce genre de matériaux, ce qui est normal. Il y a d'autres constructeurs. Il n'y a pas que Gorilla Glass maintenant, évidemment, sur le secteur. Mais là, vous allez voir que normalement, dans les annonces des ce qu'on appelle les flagships, les smartphones haut de gamme qui vont être annoncés dans les mois qui viennent, je serais étonné que ça ne soit pas noté en gros sur la fiche technique du produit à peu près partout. On va voir des vidéos débiles sur YouTube de gens qui se prédisent journalistes techniques qui vont donc pouvoir se faire plaisir et balancer des téléphones de toutes les hauteurs possibles pour voir à quel moment ça pète. Ça va être génial.
Et c'est la fin de ce 140e épisode de Torréfaction. Si tout va bien, on se retrouve peut-être vendredi prochain à 8h, sinon dans 2 semaines. Et puis bah, d'ici là, nous, on va retourner travailler. Hein.
Oui, c'est le... voilà, on va faire ça. Ça va être génial, hein, puisque c'est notre lot à tous. Pendant que les gens prennent des vacances, nous avons des gens qui sont nos clients, qui nous disent « Écoute, ça serait bien que tu fasses ça. Par contre, je ne serai pas là au mois d'août. Hein, bon courage.
» C'est ça.
Mais on est content quand même. Hein, c'est la perversion du système. Mais on n'est pas dans le meilleur des mondes.
Allez, à la semaine prochaine ou pas. Ciao.
À plus, ciao.
Un podcast signé Faskill. Faskill.com.
Salut, c'est Pipo.
Salut, c'est Gotoz.
On vous propose d'embarquer avec nous tous les mois pour écouter de la bonne musique de jeux vidéo.
Du récent ou du rétro, de la console ou du PC.
Tant que ça sonne, ça nous va. Des thématiques, de l'actu, des reprises et des invités. Le tout enrobé d'anecdotes.
Pendant 2 heures, on passe la musique de vos jeux préférés.
Et on s'intéresse à ceux qui la font.
Les démons du midi, c'est tous les derniers mercredis du mois sur geekzone.fr.